Quelle heure est-il?
C'est l'heure de la radio.
Radio Campus. 88.3.
Alors c'est la fin?
Non. C'est le commencement. Le monde ne sera plus jamais.
magnetic tailors in black L. Shit, like Christmas in August, or I'm seeing Christopher Walken talking a minute in Ori's office. I'm killing it softly, Lauren, this Michael when he was walking. Shit. Yeah, feel the vibe, feel the vibe, Hear the spits arrives, yo. It's like that smoky lounge feeling. Check it, yo. Step in the black lyric for you, don't really want this. The raw is, you must not know what war is. No gun talk, my words spun, nunchucks, Norris. And my head's wide like a Jedi, so tricks don't force it. This kids with a sickness, seriously awesome. Ostrich underground, shit, coughing. Spit till I hit coughing. Somebody calling me soft, and I won't quit till I kill Boston. Face off and drawn to vaults in the cage. I blazed off and on Sundays, so I stunt shades and stay awesome. Arms across on stage, the play form like that. Arms across on stage, I play a form like that.
Essentials involving instrumentals. What's a fresh disaster in mental? Yeah, my MC's honey, sis, honey, do. Slap my essentials involving instrumentals. What's a fresh disaster in your mental? Hear my MC's honey, sis, honey, do. Slap my essentials involving instrumentals. Words to rage the cells in your mental. Sparkling like shit wines in bottles of Yoo-hoo. Hear my black. MC's honey, sis, honey, do. Tell them what.
1, 2. Ayo, the streets out here, you hear them shout. Spilling their guts at the premiere. Their fears and doubts containing rage for a man in years. Don't square it out while we living through life cycles and circles is paramount. To break the rhythm, the bits. Stop the current. Current drums, cymbals, and riffs. Came to this world to lead you with wits that make a fair amount of heads bump their heads and they tilt in amazement. What's this maze meant to commit? Original, non-identical stilos, the gift from my parents like a fingerprint. Destined for big things like Theo and the kids. School had me misunderstood. I'm studious in life. Tackle these trivial trials and written assignments. Cloudy days will self-medicate. I've been in that state. Dark room confined by the walls. I've been in that space. Spar with shadows in the dark. I've been in that space, beginning to face the real.
Hip hop, hip hop, hip hop.
scarcity, so don't try to underpay me. I tell a knuckle tom chicken and gravy. I'm for the team, so don't try to trade me. I'm first string, so don't try to play me for granted like my name be Janet. What have you done for me lately?
Hello everyone, you are listening to some of the best stuff from the black market. This is Little Italy from Zagreb, Croatia, and our single Halo.
Aha, znači više zločina odjednom.
Tako je. I u vrlo kratko.
Policima, cipelicama, od kože krokodila. kaže jel si ja, halo, policija. Oni kolima, ti kolicima, kamion s menicima. Prekračuje ti put, od kovara žimžicima.
Radio Exchange Network. Featured song. Co-funded by the European Union. More at indire.eu.
On y va là?
Ouais, vas-y.
Allez, je commence?
Vas-y.
Bon.
Yes, Orléans Massif!
Au croisement de la Beauce et de la Sologne, Orléans est une ville où il fait bon vivre.
Comment va mon illustre patient?
Radio Campus 88.3.
Arrête, non! Ça s'anime tout d'un coup, d'habitude y'a rien, c'est tout gris.
Musique, soleil, esprit festif et peut-être même une orgie dans la boue.
Très drôle.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur.
On va la refaire celle-là ?
Et bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée d'actualité. Et au programme, comme chaque jeudi, retrouvez Bam Bam Bam, c'est la question femme. Aujourd'hui, on s'intéressera au lien entre femmes et culture. Puis, en seconde partie de cette émission, comme chaque deuxième partie d'émission depuis le début de la semaine, on vous fait vivre ou revivre le festival Terre du Son auquel nous étions le week-end dernier. Et aujourd'hui, on posera notamment les questions à des intervenants concernant l'inclusion dans ce festival ainsi que la sécurité. Voilà, c'est le programme du jour dans Écoute ta fac et on enchaîne tout de suite avec le titre Hybride de Molécules. A tout de suite et très bonne écoute sur Écoute ta fac.
We'll be right back.
Et c'était le titre hybride que vous venez d'entendre sur Radio Campus Orléans. On passe tout de suite à la suite de l'émission avec votre rendez-vous. Bam, 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 c'est la question femme.
Et bam, 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 c'est la question femme.
Bonjour à toutes et à toutes, c'est Bam Bam Bam, la question femme, c'est Lucie aujourd'hui, je suis avec Faustine, Juliette et Marianne, et Rodrigue s'ils le souhaitent, pour parler de l'essor du féminisme dans la culture, dans la littérature et dans le cinéma. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, comme ça, d'entrée ?
Alors le féminisme, c'est un mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, et l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, politique, économique. C'est donc une doctrine et une idéologie. Ça, c'est la définition du CNRTL, et il faut savoir que le terme féministe est un terme hérité du philosophe et précurseur du socialisme, Charles Fourier. Donc il date quand même déjà du 18e, 19e siècle. C'est un terme du coup, qui réunit toutes les femmes avec cette volonté d'égalité avec les hommes.
Et c'est intéressant que ce soit un terme aussi vieux parce que du coup on voulait parler d'essor aujourd'hui et c'est quand même assez intéressant je trouve de se dire que le féminisme ça existe depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense ou du moins il a été mis en valeur dans des œuvres de littérature bien avant qu'il y ait toute cette un peu cette mode d'écrire des livres sur le féminisme qu'il peut y avoir maintenant.
Exactement, et moi je dirais même que c'est le nom d'un concept, mais le concept d'égalité homme-femme, en fait, il existe tout simplement depuis longtemps. On a des souverains, on a des souveraines, en fait, qui existent.
Exactement.
On a Catherine la Grande en Russie, on a eu Cléopâtre, et on a quelques autres exemples. Ils ne sont pas nombreux par rapport aux hommes, mais ils existent, donc c'est important de le voir.
Surtout au-delà de la femme souveraine, on avait déjà des femmes féministes il y a très longtemps. On pense à Olympe de Gouges pendant la Révolution française, ou même un peu plus récemment, si on peut dire ça comme ça, on a eu Hubertine Auclert, qui dès 1882 s'estime être féministe et qui s'annonce comme telle dans ses livres globalement.
Et puis, moi, il y a une autrice que j'aime beaucoup, c'est Jane Austen, qui est plus fin du 18e, début 19e. Et c'est une autrice, je trouve, elle ne se dit pas féministe parce que je pense que ça n'existait pas encore dans sa culture à cette époque, ce terme-là en tout cas. Mais ses livres proclament clairement... c'est vraiment de la moquerie par rapport à la société, de comment est-ce que la femme elle est vue dans la où elle vit. C'est la société anglaise un peu bourgeoise de cette époque-là. Et forcément, la femme, elle est là juste pour aller en soirée et rester à la maison. Et on voit vraiment que... Elle se moque de cette société. Il y a aussi les filles du docteur March, qui est un livre assez connu du 19e siècle de Louise Alcott. Et il y a un film aussi qui est paru en 2019 de Greta Gerwig. Et c'est un film, pareil, dedans on voit plusieurs femmes, enfin quatre filles, qui ont toutes des profils différents. Et Jo, dedans, c'est vraiment... le personnage à l'époque, la fille intrépide, un peu garçon manqué, et aujourd'hui ça peut limite paraître cliché, je trouve, pour une féministe d'être comme ça, mais à l'époque, au 19e siècle, c'était limite un truc de ouf qu'une personnage...
C'était la provocation.
Ouais, exactement, c'est un peu le personnage principal des filles du Dr. March, et Jo, elle était vraiment la fille que toutes les petites filles voulaient devenir par la suite. Et après, dans le même thème, il y a aussi les sœurs Bronté qui participent à cet essor, surtout, je pense, par leur succès dans la littérature en tant que femmes. Et parce qu'elles n'étaient pas anonymes, elles n'avaient pas non plus d'hommes derrière elles étaient toutes seules. Je pense que vous pouvez peut-être nous parler d'autres femmes peut-être qui ont fait l'histoire dans le féminisme.
Alors moi... Contrairement à vous, j'ai pas autant de rêves que ça, mais je me dis que, s'il y a des œuvres comme ça qui datent d'il y a aussi longtemps, ça veut dire que aujourd'hui on parle toujours des mêmes problématiques. Ça veut dire que c'est un problème qui est assez récurrent. On tourne un peu en rond en fait, finalement, en matière de féminisme. Oui, il y a du progrès, mais c'est incroyable. C'est pas incroyable le mot, mais c'est subjugant. qu'à travers toutes ces années, on n'est toujours pas réglé certaines problématiques, même si on les dénonce à travers des œuvres justement en littérature ou en cinéma. Moi, je trouve ça génial que ça nous inspire à faire des œuvres. Mais...
Et puis, je trouve que le problème des œuvres, c'est que bah, quand on lit un livre, c'est comme quand on lit un message. Vu que c'est pas oral, tu comprends pas forcément ce que la personne elle veut vraiment dire, le ton qu'elle a. Enfin, je sais que moi, la vision que j'ai donc, d'un roman de Jane Austen, ça ne va pas du tout être la même que ma sœur. Parce que ma sœur, elle, quand elle a lu Jane Austen la première fois, elle m'a juste dit bah, « c'est un roman à l'eau de rose pour les femmes de l'époque ». Alors que ce n'est pas du tout comme ça que je vois le roman.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que moi, personnellement, je ne connais pas du tout.
Jane Austen, pour ceux qui ne connaissent pas, son œuvre la plus connue, c'est « Orgueil et préjugés ». Il y a eu un film sur ça, enfin il y a eu plusieurs adaptations en fait. Et
c'est celle de 2005 objectivement.
Exactement, je suis d'accord aussi. Et donc c'est des romans d'amour, mais c'est pas, enfin c'est des romans d'amour où il y a quand même énormément de sarcasme dedans et c'est déjà il y a un vocabulaire pour l'époque qui n'est pas si soutenu que ça, c'est hyper compréhensible que ça soit en français ou en anglais, franchement j'ai pas eu du tout de problème à le lire. Et oui, enfin ça se voit que c'est déjà c'est une femme aussi qui n'a jamais été mariée, enfin qui a toujours été indépendante en fait toute sa vie. Donc rien que pour l'époque, c'est assez dingue de faire ça, je trouve. Et puis oui, enfin c'est pas que des romans du coup justement à l'eau de rose comme dirait ma sœur. Et il y a une, mais par contre il y a une artiste aussi qui a pas mal participé à cet essor féminin ou de féministe plutôt. C'est Colette. Je pense
oui,
que.
Et on a fêté les 100 ans, je crois, il y a pas longtemps de Colette justement.
Oui, il me semble. Et Colette, pour le coup, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut en parler, mais c'était quand même...
C'est un personnage.
Un sacré personnage.
C'est un sacré personnage parce qu'elle se déguisait en homme pour intégrer des soirées où n'étaient convenus que les hommes. On voit des images d'elle justement avec un pantalon, alors qu'on le rappelle, avant 2013, ce n'était pas légal pour les femmes de porter de pantalon. Et elle osait déjà...
de faire du vélo.
Effectivement. Mais c'est pas la seule, déjà, on pense à George Sand au 19e siècle.
Aussi, George Sand, c'est sûr. Mais après, George Sand, elle avait surtout un nom d'homme. Et... Oui, c'est vrai, oui, je crois qu'elle se déguisait aussi en homme.
Elle se déguisait également, mais différemment, il me semble, parce que George Sand, c'était plus à l'origine pour se faire connaître, il me semble, qu'elle allait...
Ouais, ça doit être ça.
Et puis là, je remarque aussi qu'on donne beaucoup, beaucoup de noms européens, parce que bah, c'est normal, c'est notre culture, etc. Et c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais c'est pas comme ça partout. En fait, il y a beaucoup de différences culturelles où la place de la femme n'est pas du tout la même. Il y a des femmes qui ont beaucoup plus de pouvoir ailleurs et beaucoup plus de pouvoir de décision en fait.
C'est vrai. Je pense plus dans, par exemple, quand on parle des vieilles tribus en Amérique du Sud il y a longtemps ou même. Avant que les colons attaquent l'Amérique, les Amérindiens avant. Je pense qu'eux, dans leur tribu, ils n'avaient pas forcément cette distinction peut-être entre hommes et femmes, parce que je pense que l'objectif, c'était de contribuer à la vie, à la survie de la tribu et d'élever les enfants, tout ça. Quoi.
Ouais, c'est super intéressant. Après, il y a plein de modèles en Amérique du Sud. Parce que y a des différences, par exemple, entre les Incas, entre les Mayas, etc. Donc, mais c'est super intéressant de voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez d'autres exemples.
Par exemple, en Corée du Sud, ça s'est fait plus tard que chez nous, pour le coup. Mais en Corée du Sud, il y a aussi ce mouvement féministe qui arrive et on voit avec des livres, alors pour le coup beaucoup plus récents. Je pense au livre de Cho Nam-jo, c'est Kim Ji-moon en 1982. Pour elle, elle va raconter. Il me semble qu'elle est psychiatre et qu'elle raconte, elle romance l'histoire d'une de ses patientes qui lui a parlé de sa grand-mère, sa mère et elle, et de sa vision du féminisme par rapport au reste, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, ce livre, c'est un des livres les plus lus sur le féminisme en Corée du Sud, parce que justement, il explique non seulement... Enfin, c'est un objet de culture, parce qu'on va voir comment la société évolue, tout ça, avec l'aspect littéraire, le travail et tout, mais aussi c'est un aspect factuel où on voit la femme se comparer aux autres femmes de son temps et du temps d'avant et aussi aux hommes.
En parlant de temps d'avant et de temps actuel, enfin moi je sais que c'est pas forcément le sujet du podcast là, c'est surtout l'essor, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais les œuvres actuelles, je pense à les fameux romans à l'eau de rose dont tu as parlé tout à l'heure. Vous trouvez pas que
c'est plus des romans du 17e?
Oui, ouais, mais je pense à ça depuis tout à l'heure, je savais pas comment le caser, du coup
je viens là.
Je pense aux œuvres actuelles plutôt. Je pense à des trucs du genre Fifty Shades of Grey, les trucs là.
365 jours.
Oui, exactement. Vous trouvez pas qu'on a un peu régressé? Enfin, il y avait déjà des idées.
Mais
il y a très
demande,
longtemps.
En fait. Ça répond à une autre demande. Je pense que si tu cherches des livres purement féministes, comme des œuvres, ouais. Au Beaux-Arts, par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un gros festival du jeu vidéo qui présentait les prochaines sorties de fin 2023, début 2024, les trois plus gros jeux attendus. À chaque fois, les trois personnages principaux, c'était des femmes, par exemple, dans ce côté-là. Mais c'est parce que c'est pas le même public.
Mais de toute façon, depuis, je sais pas, on va dire 2014 ou un truc comme ça, il y a un essor profond, je trouve, de la femme fatale et de la femme guerrière, de la femme badass, en fait. Et je pense que c'est peut-être en lien avec le fait que les jeux vidéo, les trois personnages principaux, ça soit des femmes, parce que, enfin, moi, ça me paraît pas forcément déconnant, parce que maintenant, on veut justement mettre en avant ce truc de la femme qui va aller se battre, machin. Et je trouve que c'est bien, mais il faut que ça soit bien exploité.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi d'hypocrisie là-dedans? Je pense aux publicités maintenant qui essaient de mettre les publicités sur les produits ménagers, etc., qui essaient de mettre des hommes à la place des femmes, comme on avait l'habitude de le voir anciennement.
Et puis aussi dans les publicités, pour rester... on va s'éloigner un peu du sujet en parlant de
ça. En soi, c'est l'essor du féminisme dans la culture, littérature, ouais, mais la publicité, c'est aussi des représentations.
C'est de la culture, c'est vrai. Mais du coup, les publicités, c'est vrai qu'avant, dans les publicités de ménager, on voyait des femmes, etc. Et puis après, moi, je voulais surtout parler des publicités de parfums. Parce que je sais qu'il y a eu une publicité, je crois que c'était pour Chanel, où il y avait Cara Nackley dedans. Et qui, en fait, c'est une publicité qui date d'il y a quelques années maintenant. Mais en gros, Cara Nackley, dedans, elle représentait cette femme fatale dont je parlais. Et j'ai trouvé ça un peu mal exploité parce que c'était hyper sexualisé. Et je trouve que c'est le problème maintenant avec la femme fatale. Bah, déjà, la femme fatale, elle porte souvent des tenues hyper moulantes en cuir. Et bah, par exemple, il y a Catwoman. Alors Catwoman, je suis désolée, mais...
Tu veux une femme fatale, mais qui... Comment expliquer ça? Tu veux vraiment le féminisme dans la culture, qui est très bien représenté, la femme bien représentée, tu regardes les films Barbie. Il y a une étude que justement, il me semble que c'est à Harvard qu'elle a été faite, c'est des étudiantes qui ont étudié les films Barbie.
Et en plus, il y a le Barbie qui va sortir justement.
Effectivement, avec Margot Robbie. Mais il t'explique que Barbie, c'est une femme forte. Il n'y a pas une concurrence entre les femmes par rapport à un homme quelconque. Elle reste féminine. Et en fait, justement, quand on prend par exemple Barbie et le secret des fées ou ce genre de dessin animé pour enfants, on se rend compte que c'est une manière de voir le féminisme et de montrer que les femmes, en fait, peuvent être femmes fatales, peuvent être sexy. Je trouve que ça peut être forte.
Et c'est totalement ce que Greta Gerwig, elle va faire elle veut appuyer sur ce point-là dans le nouveau film Barbie qui va sortir prochainement, un peu une petite pub pour ce film. Mais elle s'est bien dit sur l'annonce, je crois que c'est marqué elle peut faire tout, et après trois petits points, et lui c'est juste Ken.
Mais c'est ce qu'on voit, rien que les Barbie, on voit que quand on prend les Barbie, elles sont toutes dans toutes les tenues possibles, astronautes, médecins, tout ça, alors que
présidente même.
Présidente aussi, journaliste, alors que Ken, on l'a pas vu dans beaucoup de
séries. Il est à la plage.
Que Barbie, ça a été mal interprété. Enfin, moi, dans ma jeunesse, être une Barbie, c'était être une fille trop girly, qui s'habille en rose, c'était un peu la honte.
Ça, je trouve que c'est le vrai problème avec beaucoup de femmes. Elles vont être super mal interprétées.
Moi, je pense qu'en fait...
Pas que les femmes, il y a beaucoup d'hommes aussi qui shamaient. Ah oui, c'est une bimbo, c'est une Barbie. C'était un peu un synonyme, en fait.
Peut-être que ça vient du fait que les mouvements... Il y a plusieurs, en fait, mouvements féministes. Le féminisme, c'est un mot qui englobe plein d'idées et plein de mouvements différents.
Plein de branches, en fait.
Exactement. Déjà, il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre égalité homme-femme et équité homme-femme. Et il y en a qui ne sont pas d'accord avec le terme homme-femme, que sur juste cette différence-là. Donc déjà, ça ramène à plein de questions. Mais aussi, moi, ce que je trouve intéressant, là, on parle de « oh là là, Barbie », etc. Mais on en parlait aussi avec tout ce qui était 50 nuances degrés et 365 jours. C'est qu'en fait, il y a plein de questions qui se posent sur est-ce que... moi, je pense aussi que le féminisme ne doit pas... En fait, il ne faut pas transformer un mouvement en une, entre guillemets, une oppression artistique. C'est bien d'en discuter et c'est bien de dire... attention, là, je suis pas d'accord, machin, etc. Typiquement, 365 jours, moi, je suis pas allée le voir et je souhaite pas le voir parce que, bon, la culture du viol, ça va deux secondes. Mais je suis pas d'accord pour qu'on le supprime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Bah, c'est effectivement la question du public, du coup, à ce moment-là. C'est pas juste pour nous, c'est pas féministe. Mais s'il y a des gens qui veulent voir ça parce que, je sais pas, envie d'eux. C'est plus ça que tu aimerais dire ?
Exactement. Et puis c'est surtout qu'on peut voir des choses sans être d'accord avec.
Oui, je suis d'accord. Et du coup, pour rester donc, dans le milieu du cinéma, il y avait eu le film de... le film sur l'affaire Dreyfus qui était sorti il y a quelques années.
Ouais, Polanski.
Ouais, l'affaire Polanski, voilà, j'avais oublié son nom. Et quand il était sorti, il y avait eu plein de manifestations féministes devant... c'était au Festival de Cannes, je crois.
Festival de Cannes,
ouais.
Oui.
Il y avait eu plein de regroupements féministes.
Une femme
pour,
était sortie
de la salle. J'ai plus son nom.
Mais elle s'était barrée quand ils ont annoncé que le prix était pour Van Polanski.
Exactement. Et moi, je m'étais posé la question de... Parce qu'en fait, Polanski, c'est un réalisateur qui est très talentueux. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Est-ce que tu mets une barrière entre le personnage et l'artiste ? Est-ce que tu regroupes tout ? Et moi, je me suis dit dans ma réflexion, mais en fait, le problème, c'est que là, le film, il est excellent, mais le réalisateur, il n'était pas si excellent que ça. Pour dire les choses sans vulgarité,
On peut dire quand même de quoi il a été accusé pour remettre.
Il avait été accusé d'agression
sexuelle.
C'est ça. Et il avait été accusé de tout ça aussi envers des actrices.
Est-ce qu'il a été condamné ou pas ?
Il a été condamné aux États-Unis.
Voilà, il a été condamné.
Ouais.
Et c'est pour ça que ça a été critiqué. C'est que s'il avait été réellement condamné, il aurait même pas pu faire le film.
Exactement. Et moi, en fait, je me suis dit, mais c'est pas normal que le film reçoive un prix. D'accord, parce que si c'est un film d'un réalisateur talentueux, je me dis, c'est pas déconnant pour moi que ça soit un très bon film. Mais c'est vrai, je me suis dit, c'est quand même pas normal qu'un réalisateur qui ait violé des actrices, surtout les siennes, enfin celles qui jouent dans son film, il soit récompensé, parce que c'est pas du tout le rôle d'un réalisateur finalement de violer ses actrices. Et c'est en fait
le rôle
d'un
de personne.
Exactement. Et puis un réalisateur, au-delà de s'occuper de son film, il doit aussi s'occuper de toute l'équipe qui va avec. Donc si tu regardes vraiment plus loin que ça dans son métier, je veux dire, c'est pas normal de violer quelqu'un, mais c'est encore moins normal de donner un prix à quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait.
Peut-être aussi préciser qu'en fait, c'est pas le film qui a été primé, c'est le meilleur réalisateur.
Exactement.
Donc ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, ça pose la question. Parce que là, c'est séparé... Alors, il y a une question de séparer l'homme de l'artiste, mais il y a la question aussi de séparer l'artiste de l'homme. Et ça, c'est pas la même chose aussi. Il y a une nuance.
Exactement.
Ouais, est-ce que tu sépares le boulanger de son pain ?
Ah bah...
Il y avait eu des questions comme ça aussi par rapport aux affaires de Chris Brown, parce que c'était...
Et puis c'est...
Il y a eu un moment où il y avait beaucoup de violences conjugales qui le concernaient. Niska aussi, très récemment, il est plutôt dans une bonne sauce en ce moment. Je crois qu'il y a eu... Aya Nakamura, elle a dû parler de lui dans une interview récemment en parlant de ses violences. Et puis je crois qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont plaintes de violences de Niska. Et à la sortie, c'était juste... ça refait un boom à la sortie de la saison 2 de Nouvelle École, son show sur Netflix, où il est géré dedans.
Pour revenir peut-être sur le titre de l'émission, de ce podcast-là, l'essor du féminisme dans la culture, peut-être parler et dire que la culture a souvent été mêlée à la femme et au romantisme. Je prends notamment l'exemple de... Des écrits galants durant la période du Moyen-Âge, du courant des précieuses au XVIIIe siècle avec Madame de Sévigné. On a également tout l'amour romantique qui se développe à partir fin XVIIIe et durant toute la partie XIXe siècle. D'ailleurs, on peut parler, beaucoup d'auteurs romantiques sont quand même des hommes. Et après, là, du coup, ce dont on parle depuis le début du podcast, on voit à quel point tous les nouveaux médias, le cinéma, à quel point l'audiovisuel ouvre aussi, pose des nouvelles questions entre femmes et culture.
Et je dirais même aussi, moi, je pose la question aussi du mot essor. Est-ce que c'est un véritable essor ? Ça, j'ai pas vraiment la réponse à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, essor ? C'est ça, une médiatisation. Et puis, surtout, comme on dit, le mot féminisme au début, c'est un concept qui... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un concept qui existait déjà avant, qui n'était pas aussi puissant et aussi revendiqué par un aussi grand nombre. C'est quelque chose qui existait déjà. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'essor ? Ou est-ce que c'est parce qu'en fait, on est dans l'actualité et qu'on est en train de vivre la chose, qu'on a l'impression que c'est un essor ?
Moi, je pense que le mot essor, comme tu dis, il est peut-être un peu discutable.
Ouais, biaisé.
Parce que comme tu as dit, Marianne, je crois, c'est plus médiatisé qu'en essor. Et puis, même médiatisé, je pense que ça peut être aussi un peu discutable. Parce que, en fait, même avant, il y avait déjà des femmes, comme la plus connue Colette, qui parlait clairement de féminisme, qui se révoltait déjà et tout. Et en fait, quand tu regardes maintenant, ça n'a pas tant changé que ça. Il y a un siècle qui s'est déroulé depuis Colette, quoi. Donc, en vrai, essor, c'est vrai que c'est difficile et de parler d'essor quand il n'y a pas grand-chose qui a changé au final dans les mentalités.
Exactement. Et puis moi, j'ai peut-être envie de dire, des fois, il faut faire aussi attention à rester modeste dans le sens où on n'est pas... de meilleures féministes que d'autres il y a un siècle, parce que il y a un siècle ou deux ou trois ou quatre, parce que même depuis l'humanité tout simplement parce qu'en fait il faut aussi voir dans quelle culture, dans quel monde on vit et sur quel combat.
Exactement. Et puis parce qu'en fait selon la culture, il y a aussi le féminisme qui va changer, parce qu'il y a plusieurs types de féminisme, donc c'est vrai que ça aussi c'est à prendre en compte, parce que tous les types de féminisme, ils ont tous en fait des rapports différents à la définition du mot, et puis ils ont tous un peu des objectifs différents. Et je pense que c'est aussi ça qu'on peut voir dans la littérature, dans le cinéma maintenant, voire même parfois je pense la photo, où selon les nationalités des artistes, on peut voir qu'il n'y a pas toujours le même message, je pense. Et je pense que quand ça sera des... Il y avait un livre qui était passé au prix Goncourt du lycéen qui s'appelait Les Impatientes. Je me souviens plus du nom de l'autrice, malheureusement. Mais en tout cas, ce livre, il se concentrait surtout sur un type de féminisme noir. Et parce que c'est un livre qui est camerounais, et l'autrice est camerounaise, donc forcément elle parlait aussi de ce qui, elle, intéressait sa culture. Et c'était un véritable témoignage de elle, comment est-ce qu'elle... elle n'utilise pas le mot féminisme dans son livre, mais c'est un témoignage un peu alarmant sur...
Combat en tant que femme,
c'est ça, c'est plus
qui
un...
Qui est-elle ?
En fait, le livre parle de trois femmes, mais c'est inspiré d'histoires vraies. Et ces trois femmes qui vont avoir des problèmes avec le mariage forcé, et c'est très commun encore au Cameroun. Et du coup, donc tu les vois essayer de survivre en fait à ces mariages, et comment est-ce qu'elles s'en sortent tout au cours du livre, et c'est très émouvant.
C'est ça. Il y a ces questions. C'est comme il y a plusieurs façons de vivre le féminisme. Et moi, typiquement.